Le journal de Frédéric Mettezo. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous. Manger bio réduit les risques de cancer, on le supposait. Une étude sur 70 000 personnes le confirme. Les détails dans un instant avec Daniel Messager. C'est un peu balance ton rectorat, des professeurs agressés qui se sentent abandonnés par leur hiérarchie et qui le disent sur les réseaux sociaux. Hashtag pas de vague et un retour de bâton possible pour Jean-Michel Blanquer. Vallourec va-t-il plomber son aciérie? Le groupe refuse de financer un projet de reprise de l'aciérie de Saint-Saulve. Dans le Nord, 280 emplois sont menacés. Décision de justice demain. L'actualité à l'étranger, le plus grand pont du monde, inauguré entre la Chine continentale, Macao et Hong Kong, un véritable outil de domination pour Pékin. Et la situation tragique au Yémen, sous les bombes de l'Arabie Saoudite, 10 000 morts, 20 millions de personnes dans la plus grande misère. Témoignage à suivre d'un médecin sans frontières. L'invité du grand entretien à 8h20, quelle politique culturelle en France ? Le pass culture d'Emmanuel Macron verra-t-il le jour ? La réforme de l'audiovisuel public ? Comment exister après Malraux et Jack Lang ? Ali Badou, vous recevez le tout nouveau ministre de la Culture.
Et de la Communication, Franck Riester sera dans le grand entretien de la matinale. Le standard est ouvert. Posez-lui vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
Et c'est l'une des grandes expositions de cette rentrée à Paris. Egon Schiele à la Fondation Vuitton. Une centaine d'œuvres à découvrir.
France Inter.
Le bio, c'est bon. Manger bio réduit le risque de cancer de 25 ans. C'est le résultat d'une étude épidémiologique publiée dans la revue JAMA Internal Medicine, une très sérieuse revue américaine. 70 000 personnes ont été suivies. Et effectivement, Daniel Messager, l'agriculture bio est meilleure pour notre santé par rapport à celle qui comporte des résidus de pesticides.
C'est chez les gros consommateurs de bio, c'est-à-dire la moitié de leur alimentation, que les résultats sont les plus flagrants, moins 25% de risque de cancer en moyenne. Ça peut aller jusqu'à moins 34% pour les cancers du sein post-ménopause. Ceux qui ne mangent pas bio pâtiraient de la présence de résidus de pesticides dans l'agriculture conventionnelle. On pourrait penser que les habitués du bio ont des comportements plus sains, font plus d'exercices et que c'est pour cette raison qu'ils développent moins de cancers. Les chercheurs ont comparé puis éliminé ce biais, c'est bien grâce à l'alimentation bio que les cancers sont moins fréquents. Mais quels aliments privilégier ? Pour Emmanuelle Caisse-Guyot, chercheuse à l'INRA, co-auteur de cette étude, il faut pousser encore les investigations.
Il faut qu'on aille plus loin, qu'on obtienne des données avec des quantités qui soient fiables et que l'on voit aussi la place du bio dans tout le reste de l'alimentation. Est-ce que ce sont certains groupes alimentaires qui vont avoir un rôle plus important que les autres ? Ça, ce sont des hypothèses qu'il faut maintenant qu'on creuse. Pour l'instant, on n'est pas encore au stade des recommandations, puisqu'il faut qu'il y ait beaucoup d'études avec des résultats qui soient cohérents, c'est-à-dire qui vont tous dans le même sens pour que des mesures soient prises.
C'est un consensus scientifique qui permettra de déboucher sur des recommandations de santé publique. Il semble de bon sens, en attendant, de limiter son exposition aux pesticides et produits de synthèse.
C'est une information de France Bleu Loire-Océan. Réunion d'urgence à la préfecture de Loire-Atlantique à Nantes. Aujourd'hui, les autorités s'inquiètent du recours au métham-sodium dans la culture de la mâche ou du radis dans ce département maraîcher. Dans le Maine-et-Loire voisin, ce métham-sodium a été interdit après 70 intoxications ces dernières semaines.
Et puis la hiérarchie et les syndicats enseignants sont-ils en train de se faire déborder, Frédéric ?
Après l'agression d'une professeure de lycée à Créteil jeudi dernier avec une arme factice, des enseignants réagissent sur les réseaux sociaux sous le hashtag pas de vague. Plus de 60 000 tweets hier soir, ils dénoncent certaines violences et plus encore le silence de leur hiérarchie. Ces profs se sentent abandonnés. Ils le disent sur Internet, donc, ou de vive voix, comme Romain, professeur d'histoire géo dans un lycée de l'Académie de Créteil.
Bien sûr, ma plainte n'a pas été prise en compte et comme beaucoup de mes collègues, j'ai baissé les bras, tout simplement. Il faut savoir qu'il y a des lycées où les personnels de direction étouffent un nombre d'affaires dont vous n'avez même pas idée. Mais voilà, je suis plutôt content que ce hashtag ait été lancé. J'espère que ça va aller loin parce que ce n'est pas normal que dans la France de 2018, on en vienne à avoir des élèves qui menacent avec une arme. Et c'est terrible aussi d'en être réduit à devoir subir parce que ce que certains peuvent qualifier de passivité, de laxisme ou je ne sais quoi, à mon sens, et je pense que c'était le cas ici, c'était du sang-froid.
Témoignage au micro de Valentin Dunat de France Bleu Paris. Ce hashtag « pas de vague » fait des vagues. Le ministre Jean-Michel Blanquer qui a pourtant réagi très vite et très fortement après l'agression de Créteil. Jean-Michel Blanquer pourrait voir cette affaire lui revenir comme un boomerang, Sonia Bourane.
Tout est allé très vite. Dès samedi soir, Emmanuel Macron demande que toutes les mesures soient prises pour empêcher de tels actes. Dimanche, en plein après-midi, Jean-Michel Blanquer s'exécute et convoque la presse en urgence pour annoncer un plan d'action ambitieux. Il promet de rétablir l'ordre et l'autorité. Puis il avance comme solution concrète l'idée de portiques à l'entrée des établissements ou l'interdiction des téléphones portables dans les lycées. L'emballement de l'exécutif passe mal. Ce ne sont pas les bonnes réponses pour les syndicats, les professeurs. Ce ne sont pas des mesures sécuritaires dont l'école a besoin, mais d'encadrement de personnel. Sur Twitter, des enseignants témoignent de la loi du silence qu'on tente de leur imposer en cas de violence des élèves pour éviter un trop grand nombre de conseils de discipline et une mauvaise réputation pour leur établissement. L'institution est mise en cause. Jean-Michel Blanquer n'avait certainement pas imaginé un tel retour de bâton. D'un fait divers, l'affaire devient une épine dans le pied du ministre. Il va devoir répondre à ce malaise qui éclate au grand jour sur fond de suppression de postes dans les collèges et lycées pour l'année prochaine, ce qui ne va certainement pas améliorer le climat scolaire.
Hashtag pas de vague, c'est un dossier d'actualité à retrouver sur franceinter.fr. La justice se prononce demain sur une éventuelle reprise de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve dans le nord près de Valenciennes. Un seul projet est en lice, mais depuis hier soir, il est fragilisé car Vallourec, propriétaire actuel du site, refuse de mettre la main à la poche pour le sauver. Maxime Deps, 280 emplois sont en jeu.
Abattus, les salariés dénoncent un crime entre amis. Vallourec a bâti sa fortune sur ses terres et aujourd'hui, ses dirigeants nous plantent un couteau dans le dos. Vallourec estime qu'injecter 51 millions d'euros dans le projet, comme le réclame le potentiel repreneur, pourrait mettre le groupe entier en danger. Mensonge, répondent les syndicats dégoûtés qui vont même jusqu'à parler d'un scandale d'État. L'État actionnaire à 16% de Vallourec, il y a 2 ans via la BPI, il a versé des dizaines de millions d'euros au groupe qui n'allait déjà pas très bien. Sous la pression des élus de la région, Bercy a accepté hier soir l'idée d'une réunion de crise entre les différents acteurs du dossier. Elle aura lieu sur place ce matin en présence d'Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État, fraîchement nommée la semaine dernière aux côtés de Bruno Le Maire. C'est à elle, la nouvelle, qu'incombera la tâche de rappeler à Vallourec sa responsabilité dans ce dossier. Comme le dit un conseiller du ministère, le groupe propriétaire historique du site ne pourra pas se défausser. Un syndicaliste d'ajouter même, s'ils veulent nous enterrer, ils devront payer.
Dernier débat à l'Assemblée sur les recettes du budget 2019.
Oui, encore une journée de discussion avant d'enchaîner sur le budget de la sécurité sociale. Comment compenser la suppression de 14 milliards de cotisations chômage pour les salariés qui servaient à financer un tiers de l'UNEDIC? Eh bien, l'État va prélever une part de CSG. Compensation à l'euro près, promet l'État, mais la mesure fait réagir à l'Assemblée car c'est un changement profond dans le financement de notre assurance chômage, Hélène Philly.
Pour les syndicats, on est clairement en train de changer de modèle. Jusqu'ici, une cotisation ouvrait un droit au chômage. Qu'en sera-t-il demain? Avec un tiers du financement de l'UNEDIC issu de l'impôt, l'État ne cherchera-t-il pas à imposer sa gestion, son système de protection? Denis Gravouille de la CGT en est persuadé.
Maintenant, l'État est actionnaire de l'assurance chômage, donc il a des exigences et en particulier, il veut qu'on accélère le désendettement en baissant les droits des chômeurs. Et puis globalement, on voit très bien que le gouvernement va vers un système qui à terme serait forfaitaire plutôt que d'avoir des droits proportionnels au salaire qu'on a perdu.
Une indemnisation forfaitaire, une protection universelle minimale, c'est le risque pointé par les syndicats, alors que le MEDEF, lui, est plutôt favorable à une allocation de base assortie d'un régime complémentaire. Le débat sera sans grand doute posé au cours des négociations assurance chômage qui débutent, car le système restera fragile, la fraction d'impôt dédiée à l'UNEDIC sera rediscutée et potentiellement remise en cause tous les ans en loi de finances, et c'est justement parce que le projet politique à long terme manque de clarté, que le Conseil d'État lui-même souhaite des clarifications.
Comment financer l'UNEDIC, l'assurance chômage? C'est un dossier à retrouver sur franceinter.fr. Accusé juste après l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn, son procès avait commencé en pleine affaire Weinstein. Le procès de Georges Tron reprend aujourd'hui après 11 mois d'interruption. L'ancien ministre de droite et une de ses anciennes adjointes à la mairie de Draveil sont accusés de viol par 2 employés municipaux. Des massages de pieds qui auraient dégénéré. En décembre 2017, les avocats de Georges Tron avaient obtenu un renvoi du procès. Ils avaient invoqué la pression trop forte des féministes portées par MeToo et Balance ton porc.
Le plus grand pont du monde vient d'être inauguré en Asie.
Avec un feu d'artifice et une cérémonie grandiose pour un pont qui l'est tout autant, 55 km entre Hong Kong, Macao et la Chine. Le président chinois Xi Jinping en personne a participé aux festivités car cette merveille d'architecture architecture est aussi un instrument économique et politique pour Pékin. Dominique André.
L'ouvrage de 55 km de long permet de relier le port de Zhuhai dans le sud de la Chine avec Macao, l'ancienne colonie portugaise, et Hong Kong, rétrocédée à la Chine par la Grande-Bretagne il y a 21 ans. Hormis le pont maritime et son autoroute à 6 voies, un tunnel routier sous-marin est mis en service. Pour ce chantier impressionnant, deux îles artificielles ont été construites dans l'estuaire de la rivière des Perles. Les ingénieurs parlent d'une prouesse technologique qui a demandé 9 ans de travaux, beaucoup de retard et plus de 360 accidents du travail et 9 morts officiellement. Ce pont fait l'objet d'une opération de propagande de la part du gouvernement chinois, dont le film glorifiant le bilan du premier mandat de Xi Jinping. Des images soulignent la dimension colossale de cette réalisation majeure pour Pékin. Pour le gouvernement chinois, cette super autoroute maritime va doper le commerce dans cette grande région industrielle chinoise. Mais à Hong Kong, les défenseurs de la démocratie s'inquiètent de ce cordon en béton qui les relie physiquement à la Chine continentale. Pékin, Dominique André, France Inter.
Le forum économique de Riyad ouvre aujourd'hui, mais beaucoup d'invités ont annulé leur venue. Des chefs d'entreprise, des dirigeants politiques occidentaux, la patronne du FMI. Tous ont décidé de boycotter ce forum très couru après la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Le président turc Recep Tayyip Erdogan promet de révéler aujourd'hui les circonstances exactes de sa mort au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. L'entourage du prince héritier saoudien est soupçonné. Mais l'Arabie Saoudite se distingue aussi par cette guerre meurtrière au Yémen depuis 3 ans et demi contre des milices soutenues par l'Iran. Au moins 10 000 personnes ont déjà été tuées depuis 2015 et plus de 20 millions seraient en grande détresse. Médecins sans frontières est l'une des rares ONG présentes au Yémen. Son chef de projet Thierry Durand est de passage en France pour quelques jours. Omar Waman l'a rencontré.
C'est un pays exsangue que Thierry Durand a quitté il y a quelques jours. Le chef de projet de Médecins sans frontières, une des rares ONG présentes au Yémen, a passé 4 mois dans la région d'Odeida, à l'ouest du pays, théâtre de violents combats.
Il n'y a plus un seul chirurgien, service hospitalier digne de ce nom. Il n'y a aucun soin obstétrico pour faire des césariennes, pour les urgences obstétricales, pour les femmes enceintes. C'est une catastrophe.
Et c'est pour venir en aide aux populations qu'MSF a ouvert en plein cœur de l'été un hôpital de campagne dans la ville de Moka, à mi-chemin entre Odeida et la grande capitale du Sud, Aden, un territoire piégé par les milices houthis soutenues par l'Iran.
Toute la zone a été minée et on a toutes les semaines des victimes d'explosions de mines sur des véhicules, des bus. Pour donner quelques chiffres du mois de septembre, on a eu plus de 650 personnes venant à la salle d'urgence et on a fait plus de 400 interventions chirurgicales avec un blocus, avec des structures d'État effondrées, une économie qui part en lambeaux, ça n'avance pas.
Et après plus de 3 ans et demi, l'Arabie Saoudite à la tête de la coalition s'est enlisée dans cette guerre dont aucune issue ne semble se profiler.
Troisième journée de Ligue des champions de football ce soir. Lyon joue à Hoffenheim en Allemagne et la Juventus de Turin à Manchester United. Dans ce match, l'enjeu va au-delà du sport car les Italiens jouent avec leur star portugaise Ronaldo. Ronaldo, accusé de viol par une Américaine en 2009 quand il jouait précisément à Manchester United. Hier, Ronaldo a donné une conférence de presse où il s'est présenté comme un exemple sur et en dehors du terrain. Une femme l'accuse d'un viol dans un hôtel de Las Vegas. Lui parle d'une relation consentie.
Et puis pour finir, l'une des grandes expositions de cette rentrée.
Celle sur l'artiste autrichien Egon Schiele à la Fondation Vuitton à Paris. En parallèle avec l'exposition Jean-Michel Basquiat, vous pourrez découvrir une centaine d'œuvres, des dessins, des gouaches, des peintures du peintre néo-expressionniste autrichien. Isabelle Pasquier, c'est une visite forte et bouleversante.
Il y a 100 ans, Egon Schiele était traité de pornographe. Ça lui a même valu quelques jours de prison. Dans l'exposition, ses débuts, influencés par Gustav Klimt, ses autoportraits saisissants d'angoisse et ses dessins de nus, de corps déformés, rongés par la maladie. Et ça pour la société viennoise de l'époque, en plein naufrage, ravagée par la syphilis et au bord de la guerre, c'était insupportable. Suzanne Paget est commissaire de l'expo.
Schiele, il a osé être l'observateur implacable de ce qu'est l'homme. Un être sexué qui, dans un contexte en plus qui était 14-18, est destiné à la mort. C'est un dessin qui en plus est très corrosif. Les corps sont contorsionnés, directement branchés sur le circuit nerveux. On est complètement transpercé immédiatement. Une ligne très sobre et en même temps, ce qui est magique, alors là c'est tout son talent, c'est qu'il donne une grande présence au vide. Le vide des corps, unique, totalement inédite, avec l'aquarelle et la gouache.
Et en 2018, les dessins d'Egon Schiele choquent encore. Ils sont parfois à la limite du soutenable. Parce que derrière ces corps écorchés, c'est l'âme humaine et sa souffrance que peint Egon Schiele. Sublime, déchirant.
L'exposition Egon Schiele, c'est à la Fondation Vuitton à Paris. Et c'est jusque début janvier 2019. On a le temps, mais vaut mieux réserver, Ali.
Merci Frédéric Mettezo. Tout de suite, la météo de Marie-Pierre Planchon.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs. Fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et Marie-Pierre, attention au brouillard ce matin.
Oui, du Val-de-Saône en remontant vers Mulhouse-Saint-Dizier jusqu'aux Ardennes. Et on retrouve sur ces régions les nuages bas de la perturbation d'hier qui sont parfois nombreux encore ce matin. Du Grand Est jusqu'au Massif Central, mais aussi dans le Sud-Ouest. Et puis, comme on reste sous l'influence de cette patate anticyclonique centrée sur l'Irlande, votre matinée sera ensoleillée après la dissipation des brumes assez localisées. Il fait frisquer ce matin avec même quelques gelées blanches dans le Nord-Est. Au plus bas, on relève moins 2 vers Charleville-Mézières. En région parisienne également, il fait moins 1 en Seine-et-Marne, pas plus de 4 à Bourges, 6 à Mont-de-Marsan, 7 à Paris, alors que vous avez 12 à Dunkerque et 17 à Calvi.
Et cet après-midi, le retour du soleil.
Oui, après la dissipation donc, de ces brouillards, de ces nuages bas, le ciel sera parfois quand même voilé, du Nord-Pas-de-Calais à la Franche-Comté, ainsi que sur le sud de la Bretagne jusqu'au Massif Central. Mais l'ambiance restera lumineuse. Et puis autour de la Méditerranée, le vent va se lever. Le Mistral et la Tramontane vont se renforcer jusqu'à 80 km par heure, ainsi que le vent de nord en Corse. Et puis les températures seront de saison, voire 1 ou 2 degrés au-dessus, comme à Paris. Il fera 18 alors qu'on devra avoir 15 en cette saison. Vous aurez 16 à Brest et à Lille, 17 à Dijon comme à Biarritz, 19 à Toulouse et Saint-Rémy-de-Provence. Comptez 23 à Perpignan, 24 à Ajaccio et à Sommières dans le Gard.
Merci Marie-Pierre.